Bravo, petite caméra, petit séjour, mais dans reportage, bravo. Vous avez vu, moi, Brel en Yiddish, qui connaît les références, Alexandre, je voudrais l'acheter, hein, si ça existe en disque, c'est formidable. Je vais commencer, moi, pas une question, vous allez voir, elle n'est pas du tout métaphysique cette question. Qu'en sait-il qu'au cours, il n'y a eu que des femmes? Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Oui, il y avait plusieurs... ça dépendait des classes, je ne sais pas.
Tu vois, ma question était essentielle.
Oui. C'est vrai que les rencontres sont possibles. Mais à propos de Jacques Brel, quand Mendy le chante, il l'introduit comme ça. Il a chanté des chansons d'un grand chanteur qui s'appelle Jacob Brel.
Bon, je vous propose, si vous avez des questions sur le film lui-même, sur le Yiddish et son avenir en général, je préfère qu'on les pose tout ensemble parce qu'elles s'adresseront certainement aux deux orateurs. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le film? Alors, Alexandre, ce film a été fait il y a 2 ans. 2 ans plus tard, il y a des réflexions qui ont certainement percolé ou mûri 2 ans plus tard. Tu retournes chaque année, non?
L'année passée, le cours n'a pas eu lieu parce qu'en raison de grèves, qui a eu de grèves importantes qui avaient eu lieu en Israël, les cours avaient été prolongés plus tard l'été, ce qui fait que les locaux n'étaient pas disponibles. Donc le stage n'a pas eu lieu en 2008, mais cet été, il aura lieu. Donc ceux qui veulent y aller, c'est facile de... Université de Tel Aviv, ils disent ou votre programme, vous tombez tout de suite dessus, vous avez les infos. Voilà.
Alors, ce film m'a beaucoup touché, hein, parce qu'il est très vivant, il y a des interviews qui sont très intéressantes, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as fait un petit peu plus, peut-être? Parce que les 7 tentatives d'apprentissage...
La question vient d'un psychanalyste.
Non, mais c'est-à-dire que ces 7 tentatives d'apprentissage étaient quand même une expérience... difficile, j'ai l'impression aussi. Pas seulement, mais bon.
Non, j'ai eu beaucoup de bonheur, en fait. Oui. C'est pour ça, prolonger l'apprentissage et être dans ce moment particulier. Disons que il y a 2 raisons. C'est une très très bonne question qui m'avait également été posée à l'UPJB lorsqu'on a fait la projection il y a quelques mois. C'est Alain Lapiovert, que beaucoup d'entre vous connaissent. Tout à coup, il dit, mais enfin, Alexandre, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Donc c'est votre question. Alors, il y a 2 réponses à ça. La première, je l'ai esquissée tout à l'heure, en disant cette sensation de bonheur d'être. Quand j'entends du yiddish, il y a une résonance un peu gênante. Enfin, on peut diminuer les graves à la technique, diminuer les basses.
C'est le technicien qui parle.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore moins de basse, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2, ça va mieux, non? Quoi?
Il y a un
yiddish. Mais comprends pas.
Justement.
1, 2, vas-y.
Bon, enfin, ça connaît
trop. Bon.
Justement.
Sans micro, va.
Bonjour, je vais parler sans micro. Coupe le micro. Coupez.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui filme?
Si on remettait la table là-bas.
Ça doit être la table, c'est ça?
Si on mettait la table là-bas.
Les rires, tiens, je fais non.
C'est une nouvelle installation qu'on nous dit ce soir. Bon, on va continuer. On va essayer. Non, ça va pas.
Il faut rire.
Et quel échelle Zemmeg, Zimbo.
Voilà.
Ça va.
On entend très bien. C'est ça. Et les 2, très bien.
Larsen, vous connaissez.
Voilà.
Ah, c'est bête.
Un, deux. Ok. Donc, pourquoi? 2 raisons. La première, je l'ai esquissée tout à l'heure, c'est cette sensation de bonheur. Quand j'entends Brel et Yiddish dans la rue, comme ça, ça me fait un choc, vraiment un choc. Et je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la première raison. Donc, pourquoi j'ai envie? Parce que je m'y sens bien. Ouais. La deuxième raison, c'est à propos de... On se pose beaucoup de questions de transmission du judaïsme dans tous les milieux juifs. Ça fait partie de notre habitus. Transmission des valeurs juives, la transmission de la culture juive, du judaïsme, de l'être juif, mariage mixte, mariage pas mixte, religion pas religion. Que faire avec tout ça? Et il m'a semblé que un des canaux qui est sous-utilisé dans ce but ou dans ce souhait, ou je ne sais pas comment l'appeler, c'est précisément la culture yiddish. Il y a un sociologue israélien qui a écrit un livre, 52 juifs répondent à Ben Gurion sur ce que c'est que l'identité juive. Il s'appelle Eliezer Ben Raphaël. Il est sociologue. Il a, dans ce livre, il explique qu'il y a trois grands piliers à l'identité juive. Il y a le pilier religieux, bien entendu. Il y a le pilier nationaliste, nationalitaire. Donc c'est l'État, c'est la terre, c'est l'armée, que sais-je. Beaucoup de juifs s'identifient à Israël, en plus ou en moins. Et il y a la culture juive. C'est les trois grands piliers de l'identité juive. Alors la transmission du judaïsme pour les religieux, ce n'est pas un problème. La transmission du judaïsme en Israël pour les Israéliens, ils sont Israéliens, ils font le Shabbat qu'ils le veulent ou non. Enfin, c'est dans la vie. Il n'y a pas de problème de transmission là. Il y a d'autres problèmes qui se posent, mais ça on peut entrer dans les détails après. Et la transmission de la culture. Voilà. Alors, je pense que beaucoup de juifs seraient peut-être plus proches de leur identité et à travers le yiddish et tout ce qu'il y a autour. C'est quand même bizarre, le film, c'est abordé dans le film, c'est quand même bizarre que... Bon, on a mis... C'est 1000 ans de culture en Europe. Elle a été brisée par la Shoah. C'est quand même extraordinaire que des Juifs qui ont quitté l'Europe pour fonder un État, qui vivent là-bas, faire une nouvelle vie, aussi, eux, ils coupent les racines avec leur passé plus proche, européen, juif, yiddish. Ça pose des problèmes pour certains jeunes. Et je discutais avec une des amies qui est dans le film, qui a témoigné, enfin, une des étudiantes, qui disait, elle, je ne sais pas ce que c'est être juif. Elle est israélienne. Elle est venue au cours, et pour elle, ça a un sens, c'est une parole. Voilà. Donc, je dirais, pour répondre à votre question, c'est les deux aspects. Un aspect très intime, très personnel de bonheur juif. Et un aspect plus sociologique, plus politique, sur l'avenir du peuple juif, dans toutes ses composantes. Y compris les composantes diasporiques merveilleuses, pleines de richesses, de culture. Je suis allé dimanche voir l'exposition à Paris, le futur antérieur au musée d'art et d'histoire du judaïsme sur la modernité yiddish, à travers les livres, c'était extraordinaire. Cette efflorescence de créativité au niveau de la typographie, des illustrations. Ce qui m'a fort frappé, je terminerai ma réponse là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de pages et de couvertures de livres, et puis il y a de temps en temps des grandes photos de ces écrivains, de ces graphistes. Je n'ai pas les noms, je ne peux pas vous les dire par cœur comme ça, mais vous voyez de quoi je parle. Et on voit ces jeunes juifs beaux, pleins d'énergie, modernes, hyper modernes, magnifiques, magnifiques.
Ça fait plaisir. Bien, alors, passons pour un moment, puisqu'on reviendra à la fin des questions que vous poserez. Passons donc à notre deuxième orateur de ce soir, qui est Max Cohn, docteur en philosophie et psychologie, et de son état actuel, essentiellement psychanalyste, maître de conférences à l'université de Paris 7, correspondant des cahiers Yiddish Heften. Il a aussi, en 2006, été lauréat du prix Max Kuckermann, comme on dit en France. Et il est, j'en témoigne parce que j'ai été interviewé ce soir, il est aussi correspondant de la radio Yiddish SBS, qui se trouve à côté de chez nous, puisqu'elle est à Melbourne, Australie, avec des podcasts et avec le MED, qu'on appelle comment Yiddish
Internet.
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 C'est un S.
Mais il est tzadik, c'est un tzadik. Et voilà, voilà l'introduction de très nombreux ouvrages absolument passionnants. Deux sont en vente à l'extérieur. Et puis voilà, Max Cole, vous avez la parole.
Bien, merci. Je vais commencer en français, quoique je voudrais remercier d'abord Alexandre Weinberg et puis les organisateurs de m'avoir invité, parce que c'est un art et c'est un accouvet qui chante des aigres. C'est dynamique. Ah, le capuchon, le microphone. C'est passé. Je commençais par une histoire sur l'avenir. C'était un congrès de chiromancie, de voyante. L'avenir du Yiddish, moi je n'ai pas aidé, hein, franchement. Mais un jour, à la fin de la guerre, Hitler sent que ça tourne au vinaigre. Et donc il veut voir son astrologue et lui dit, écoutez, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit, je vais perdre la guerre. Oui, vous allez perdre la guerre. Est-ce que c'est vrai que je vais mourir? Oui, c'est vrai, vous allez mourir. Et vous allez même mourir le jour d'une fête juive. Quelle fête juive? Enfin, le jour où vous allez mourir, ce sera... Non, je comprends. Tout ça, c'est ça. Am Sorten de Melkome, ob Hitler gefragt, ein Astrolog, sagen, si tous ces vous arrêtent, verloren de Melkome, oder in Genf, ja, ihr wird verlieren de Melkome. Si tous vous arrêtent, starben, ja, ihr wird starben. Ihr wird dann gestorben, na jüdischen Jonte. Im Fußfahrer Jonte, da tun wir sie, ihr wird starben, sagen, jüdischen Jonte. Jüdisch trägt sich, aber es ist nicht so gering, noch ein Chogen. C'est ça, c'est une Welt, wie man gehört in dem Film. Le monde est cassé. N'est-ce pas? Il est cassé, non, il est cassé par massivement la Shoah. Est-ce qu'il ne se serait pas cassé avant? Est-ce que ça serait déjà cassé dans ce monde ashkénaze de langue yiddish? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? D'abord peut-être un ou deux mots avant qu'on aborde au fond sur cette question de l'avenir, à partir d'un petit état des lieux que je vais vous présenter pour engager la discussion avec vous. D'abord je voudrais dire deux ou trois mots sur moi, parce que bon, je ne suis pas sûr qu'on me connaisse tellement en Belgique, comme on m'a dit tout à l'heure, on me connaît un peu ailleurs. Moi, je suis né après la guerre. Parents polonais, comme vous avez pu entendre, juifs polonais, mon père de Lodz, ma mère de Chesterov, ils ont perdu 50 000 personnes dans leur famille pendant la Shoah, pendant les camps. Mon père a été déporté dans cette camp dans Auschwitz, ma mère aussi, et la Bendez, et Ravensbrück, qui sont revenus vivants. Ils ne se connaissaient pas avant, ils se sont rencontrés à Paris. Parce qu'ils avaient chacun un frère, un demi-frère pour mon père, Herschel, un communiste, et une Leibel, un communiste. Enfin, ma maman, soit communiste. Normal. Voilà. Et moi, j'ai donc vécu avec Lydie, qui est ma sœur, qui est un peu plus jeune que moi, qui a 4 ans de moins que moi, que j'ai interviewé ce matin. C'est très émouvant d'ailleurs, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Donc j'ai vécu avec que 47 ans, puisque ma mère est morte en 98 et mon père en 94. À ressentir ce que tu me disais tout à l'heure dans l'interview, c'est-à-dire, bon, moi j'étais mis en position d'analyste, quoi. C'est-à-dire, je dois non seulement écouter alors que je suis un bébé, je dois réparer, je dois guérir, je dois soigner, mais enfin je ne suis pas autre chose qu'un enfant. Cette position d'analyste, qui n'est pas une position d'analyste réellement, une position analytique. Je suis analyste depuis 31 ans. Je travaille dans un centre maternel à Paris depuis 24 ans, où je m'occupe d'enfants et de mères qui sont seules pendant un an et demi avant de les faire sortir quand elles trouvent du travail ou un boulot, enfin un logement. Eh bien, cette position analytique, c'est celle du bébé. Le bébé, enfant, ça veut dire celui qui n'a pas de langue, celui qui ne parle pas. Il faut partir de la clinique pour comprendre quelque chose au yiddish. On ne va pas y arriver autrement. En tournant, on est dans l'idéalisation, dans le rejet, dans la fascination. Il faut pouvoir avoir une relation avec une langue qui soit à la bonne distance. Pas trop attaché, un peu détaché. C'est pas seulement vrai avec la langue, c'est vrai avec tout. Un certain attachement et un certain détachement. Il est impossible de penser la question du yiddish sans penser la question de l'absence de langue pour le petit enfant qui est une boule de sensation, c'est-à-dire une boule d'émotion, qui ressent des choses en face de lui et qui ne fait pas le lien entre le sens des mots, ce qu'il ressent et un mot. Cette chose-là se construit petit à petit. C'est-à-dire quand à vers 4-5 ans, on va à l'école, on fait le lien entre le mot, le sens et l'émotion. Bon. L'expérience clinique originaire, et ça je crois que c'est vraiment psychanalytiquement très important de le dire, même si ce n'est pas l'association psychanalyste que je m'adresse, mais c'est absolument fondamental, c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie de l'absence de langue pour le sujet de la parole. On entend le sujet de la parole, bon, j'entends par sujet de la parole celui qui s'écoute parler. Il n'a pas de langue au départ. Il est pris dans le langage, et pour Claude Agege, le linguiste, c'est une fonction qui permet d'accéder à toutes les langues. Potentiellement, le tout petit enfant, s'il entend 50 langues, il peut apprendre 50 langues. Cette expérience-là, comment est-ce qu'elle se joue dans le monde ashkénaz? Et je dirais même plus, comment est-ce qu'elle se joue dans le monde juif? Le monde juif est traversé par des judéo-langues. Il y a je ne sais pas combien de judéo-langues. J'ai interviewé récemment Chaim Vidal Sefira, qui est belge, qui est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du judaïsme, du latin, et qui parle yiddish, et qui a chanté une chanson qu'un de ses amis de portée chantait aussi à Auschwitz. C'était très émouvant. Je connais depuis 35 ans. Bien, les judéo-langues, ce sont des espaces entre la langue d'État et la langue sacrée. Fondamentalement, elles ont été inventées parce qu'on ne peut pas commenter le texte sacré en hébreu, en araméen, en hébreu, en araméen. Pour comprendre une langue, il faut sortir la langue. Il faut traduire. D'ailleurs, le rouge, c'est ça. Et c'est pareil pour le ladino, qui n'est pas le judaïsme, la langue vernaculaire parlée par les judéo-hispanisants. Il faut, pour pouvoir entendre quelque chose au texte, sortir de la langue du texte. Il faut par conséquent traduire. Or, on prend la langue de l'environnement lotharingien, dans les années 1000, l'allemand, c'est pas qu'on y mélange des mots d'hébreu, c'est qu'on reprend toute la civilisation du rapport infini au sens du texte. On invente une langue, comme le dit le grand linguiste Max Weinreich, intermédiaire entre la langue de l'environnement, qui est bon, plutôt à partir du XVIIIe siècle, la langue de l'État-nation en Europe, langue de l'État-nation, qui s'invente une mythologie de l'origine. Une de mes amies qui s'appelle Anne-Marie Thiès, qui a écrit un très très beau livre sur l'invention des États-nations en Europe, 18e-20e siècle, montre très bien que au même moment, tous les États-nations en Europe inventent des textes d'origine mythique. Les Écossais font ça. Ils ont soi-disant retrouvé des histoires de leurs ancêtres qui ont été écrites en fait tout récemment pour pouvoir faire se superposer un État, une nation, une langue et un territoire. Or, le petit enfant qui n'a pas de langue, qui n'a que des émotions et qui doit se constituer cette langue, la relier à du sens et à des mots, qu'est-ce qu'il fait dans cette superposition de la langue, de le territoire, de l'État et de la nation, comme si c'était confondu? Que fait le peuple du livre quand il n'a pas cette dimension-là d'adhérence à la langue de l'État, parce qu'il a le texte sacré qu'il transporte avec lui, qu'il traduit d'ailleurs dans beaucoup de langues, qu'il peut parler toutes les langues? N'est-ce pas? Donc toutes les judéo-langues sont à prendre en considération. D'abord, ça c'est un point très important comme espace intermédiaire entre la langue de l'environnement et la langue sacrée. C'est-à-dire une langue de tous les jours. Alors premier point, quel est l'état des lieux dans la langue de tous les jours? Ben, ça ne va pas tellement bien dans les milieux laïcs. Ben, bien sûr, à part des endroits exceptionnels comme celui-là, il faut reconnaître que c'est un endroit quand même assez exceptionnel. Hein. Bon, à Montréal, j'ai eu l'occasion de faire carrément une conférence en yiddish. Ça y est, devant des personnes âgées. Hein. D'ailleurs, c'était extraordinaire. Parce que, évidemment, les gens qui étaient en moi, ils les connaissaient. Les gens qui étaient en eux, je les connais aussi. On se connaît. D'ailleurs, c'est aussi une des clés d'une bonne interview. C'est pas tellement que l'autre parle bien, parce qu'on a le droit de parler mal. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé, on peut être muet. Il y a toute une psychopathologie du yiddish, du locuteur. C'est évident. C'est-à-dire que moi, c'est pas seulement dans le travail de journalisme, qui est d'ailleurs un travail en réalité analytique, même si c'est pas de la psychanalyse, il y a un auditeur de Suède qui m'a écrit un mail en disant « Mais avec les petits jeux de votre café de l'espoir, c'est un café à la République où j'ai commencé à faire des interviews il y a un an, et il y avait des gens extraordinaires, avec une voix extraordinaire, je vais vous faire un film. » Bon, alors je l'ai laissé tomber parce que c'est tellement terrible, ce milieu. Donc je pense que j'avais interviewé Alex Daffner, qui est directeur de la chaîne en Australie, pour les Yiddish Alerten à Paris, je lui ai envoyé des interviews, il les a passées, et puis depuis on travaille ensemble, c'est un type de loge. Donc on s'entend assez bien, les gens qui sont en nous entendent assez bien. Et le secret d'une bonne interview, c'est ça. C'est pas seulement que les gens parlent bien, c'est que les gens qui sont en eux résonnent avec ceux qui sont dans l'autre. Ils se haïssent pas trop. C'est-à-dire qu'on se fait confiance. Et là, il y a un vrai problème. J'étais hier au Café de l'Espoir, hein, puisque tout a commencé là-bas, à la République, 50 boulevards du Temple, c'est pas un secret. De 4h30 à 6h, vous avez depuis 20 ans des juifs qui se réunissent. Il y a plusieurs cafés à Paris, je peux vous donner les noms, il y en a qui ont disparu, ils n'existent encore, il y a encore des juifs qui se réunissent, qui parlent de 4h30 à 6h, tous les jours, sauf samedi et dimanche, mais bon, encore ailleurs. Hein? Et ça s'appelle l'espoir. Il faut le faire, n'est-ce pas, hein? L'avenir. Bon. Qu'il pleuve ou qu'il vente, hein? Bon. Parce que c'est quand même mieux que d'être chez soi et d'attendre la mort. Alors l'avenir, bon, le peuple du livre, qu'est-ce que vous voulez, il attend le Messie, et le Messie, il ne faut pas qu'il vienne, donc on attend, et on attend, et on attend. Donc l'avenir, on mise dessus. Alors maintenant, ce qui va se passer dans l'avenir, je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Alors quel est l'état des lieux dans la langue quotidienne? La langue quotidienne, comme je le disais à l'instant, dans les milieux laïcs, elle n'est pas très très très... développé par rapport au milieu religieux. Vous en avez un exemple ici avec Anvers. C'est le cas en Israël aussi, c'est le cas de New York, à Borough Park ou ailleurs, à Brooklyn. Il y a beaucoup de milieux religieux où la langue vernaculaire, c'est le yiddish, pour des raisons qui sont liées à leur pratique de la tradition. Bon. Il y a aussi toute une littérature qui existe. Quand on rentre dans une librairie à New York, dans ces quartiers-là, on trouve toute une littérature, et pour les enfants et pour les adultes en yiddish, avec des textes qui ne sont peut-être pas des textes canoniques comme ceux de la grande littérature yiddish, mais qui existent, qui sont publiés. J'ai interviewé le directeur du journal de l'Allgemeine Journal, Simon Jacobson, qui est un homme d'ailleurs tout à fait. C'est en plus les laïcs qui m'ont dit d'y aller. Il faut aller, il faut y aller, c'est quelqu'un d'important. Moi je vais là où c'est important, je n'ai pas de temps à perdre. Et ça peut être des gens simples qui sont importants. Hein, ce n'est pas forcément les gens les mieux placés, ils ont quelque chose à dire. Simon Jacobson, c'est 80 000 exemplaires de journal. Le Forwert, c'est 2 000. C'est un excellent journal, quand même. Je veux dire, bon. Et bien, voilà. Donc, c'est une audience qui est quand même assez différente. Bon. Alors, dans la vie quotidienne, c'est pas facile quand il n'y a pas, ça a été dit dans le film, quand il n'y a pas un creuset culturel vivant, comment voulez-vous que ça se développe de manière vivante? Il faut vraiment qu'il y ait des livres qui se publient, des journaux qui se publient, une radio, enfin plusieurs radios, il faut voir qu'aux États-Unis, dans les années 40, il y avait je ne sais pas combien de radios yiddish là-bas. Je ne sais pas combien, on a offert un disque récemment, c'est extraordinaire. Et il fallait que la radio, ça soit du swing. C'est-à-dire qu'il jouait du swing. C'est la musique, ça. Et ça, la musique de la langue est très importante. Il jouait du swing et il fallait que les émissions soient swingées. Il y avait un rythme comme ça, musical, carrément, aux États-Unis, qui était lié à... Personne ne voulait écouter du klezmer. Il voulait du swing. J'ai tout un disque comme ça, où il y a de la musique swing, du jazz, des trucs comme ça, et sur des émissions yiddish, avec des pubs pour tel et tel type. Alors il y avait par exemple un gars qui a un magasin, et comme ça faisait un petit peu nénuche tout seul à avoir son magasin, il s'est fait appeler Joe, je ne sais plus son prénom, John et Jimmy. Il n'y avait pas Jimmy, c'est une invention, tout ça est disponible, voilà, le type de radio. C'est intéressant. Bon. La littérature, il y a quelques écrivains qui existent aujourd'hui, qui écrivent en yiddish, il y a quelques revues, c'est pas terrible, il n'y a pas un lectorat très très développé. Le directeur du Forbert Sandler, que je connais, qui l'a interviewé, qui est un type formidable, m'a passé un de ses bouquins, je l'ai lu d'ailleurs, sur une petite, sur une dame qui est, enfin, qui est Rachel. C'est même en yiddish, c'est écrit Rachel, Rachel, quoi. C'est pas Rachel, c'est pas Rachel. Alors, au début, j'ai rien compris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, Rachel? Qu'est-ce que c'est? Puis, je finis par comprendre. Bon, et donc, lui écrit, mais enfin, il n'y en a pas tellement. Et puis, c'est des lectorats qui ne sont pas extrêmement développés, quoique il y en a quand même un certain nombre. Il y a de la traduction, il y a beaucoup de traductions, très important. Rachel Ertel vient de sortir deux tomes de Trésor, de Yiddish Sprache, que je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas exactement comme ça, enfin bon, deux tomes d'un recueil de littérature yiddish traduit. À Buenos Aires, il y a Eliyahu Tucker, qui est un immense poète que j'ai interviewé aussi pour Yiddish Heft, qui a traduit en espagnol une grande partie de la littérature yiddish. Il y a tout un travail de traduction qui est extrêmement important. Charles Dobzhinsky. Vous trouverez une interview de Dobzhinsky qui est aussi sur mon site, sur le site de SBS, enfin bon, tous ces gens-là, y compris par Ertel. Donc c'est extrêmement important, et là il y a un point qui rejoint la question de la Shoah. Par exemple, dans ce qu'elle raconte dans l'introduction à ses traductions, Rachel Ertel dit que, traduire, c'est pouvoir faire finalement, d'une certaine façon, le deuil de la langue yiddish. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je vous donne tout de suite ma position. Pour moi, personnellement, c'est une langue vivante. Et si je ne l'utilise pas comme langue vivante, c'est pire que la mort. J'ai dit pire que la mort. Je n'ai pas dit la mort. Parce que la mort, au fond, bon, je ne coupe pas le passage que nous craignons tous, justement. N'est-ce pas? Et la mort, bon, c'est la mort, c'est rien, quoi. On a peur, non pas de la mort, mais de la souffrance, ou de ce qui accompagne la mort. Donc, pour moi, c'est pire que la mort. Voilà. C'est-à-dire que, c'est même pas que je suis mort, c'est que tous ces gens qui sont en moi, alors, sont, pour certains, morts, et là, pour certains vivants, pour d'autres survivants, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après des années d'analyse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Survivant, surmort, mais c'est quoi ça? Qu'on m'explique. Ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas qui est vraiment mort et qui est vraiment vivant. On rencontre plein de gens qui sont morts, qui ont l'air vivants. Plein de gens qui sont morts, mais qui sont vivants. En soi, c'est ça l'inconscient. C'est un gros problème avec notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a une telle destruction qui porte pas seulement sur un certain nombre sur 6 millions de juifs, qui porte aussi sur plusieurs générations. Les effets se transmettent sur plusieurs générations. D'où d'ailleurs tout le problème de la transmission dans l'enseignement, ça c'est l'autre point important peut-être de cette question de l'état des lieux pour penser un peu l'avenir, pour avoir quelques idées sur l'avenir. Pourquoi c'est si difficile? Et c'est pas seulement ton expérience à toi d'essayer cette fois d'apprendre le yiddish, c'est l'expérience, j'ai entendu ça je sais pas combien de fois, récemment avec mon ami Vandron Gerten, avec qui d'ailleurs on a publié le premier colloque international sur le yiddish et la psychanalyse, j'avais organisé à l'université Paris 5, celui qui est en vente là, c'est le deuxième colloque international, que je recommande vivement parce que ça fait vraiment le point de la chose, et puis il y a un autre livre ici, qui est un recueil de Witsen, du Forwerz, que j'ai recueilli et analysé, et traduit et interprété, qui sont des histoires qui sont des trésors de sagesse, très proches d'ailleurs, à mon avis, à un certain niveau de l'humour zen. L'humour zen, Il y a un type comme ça qui demande à son élève, bon, qu'est-ce que c'est que le vide? Alors l'élève commence à dire plein de trucs, alors le maître lui prend son nez et puis il le serre très très fort. Alors l'étudiant dit, oui, mais maintenant j'ai compris ce que c'était que le vide. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le discours, dans le langage, dans les mots, dans les concepts, et qu'on ne ressent pas ce qui se passe, et ben, on est à côté de la plaque, quoi. Alors pour ressentir une langue, pour ressentir un concept, il faut d'abord le vivre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas vécu dedans? Ce n'est pas tellement la langue maternelle seulement, mais la langue de l'enfance, ou pire encore, mieux encore, pas pire encore, la langue de l'infantile. Parce qu'il y a plusieurs mêmes langues de l'enfance, les langues de l'infantile. Il ne faut pas confondre les langues de l'enfant, qui sont les langues de son infantile à lui, avec la langue maternelle. La langue maternelle, c'est celle que la mère parle, plus ou moins. Ça peut être d'ailleurs un Zaïde, ça peut être un grand-père. Jeannette Haddad, qui est intervenue, qui est une analyste américaine, yiddishophone, qui l'a appris avec des parents qui étaient déportés, allemands, pas du tout yiddishophone, arrivant à Londres, alors on se retrouve aux États-Unis, Livo lui dit, écoutez, si vous apprenez le yiddish, on vous trouve un poste, elle l'a appris, elle a eu un poste, elle a enseigné ça 30 ou 40 ans, bon, et elle est analyste. Donc, mais c'est pas sa langue d'enfant, c'est pas sa langue maternelle non plus. Langue d'enfant et langue maternelle, c'est pas pareil non plus. L'inconscience, c'est du côté de la langue de l'infantile, des émotions archaïques, qui sont ensuite mises en mots dans une langue qui peut être la langue maternelle, mais qui peut être aussi la langue de l'État, de la nation, de l'environnement. Bon. Mais ce qu'elle dit, Jeannette Haddad, et ça c'est un point important à mon avis, elle ne parle pas de langue maternelle, elle parle de Mame, Tate, Puppe, Seide, Bouche. C'est-à-dire langue maternelle, paternelle, grand-maternelle, grand-paternelle. Or précisément, ce dont il est question quand on parle vraiment yiddish, c'est de la transmission d'une génération à une autre qui a été brisée. C'est propre. C'est-à-dire que l'étudiant, l'élève, et Jean Baumgarten, je le disais à l'instant, j'ai eu au téléphone récemment, il me dit, mais ça ne marche pas, les cours de yiddish, il reste 2-3 ans les élèves, et puis après, avec qui ils vont aller parler.
Max Kronzig, sur ce constat, voilà, vous dites... La conversion au yiddish
est difficile. Ça veut dire que la conversion au judaïsme est difficile.
La conversion au yiddish, quand on n'en vient pas, quand on n'a pas têté le yiddish en même temps que le lait maternel, c'est difficile. Avec un constat comme ça, qu'est-ce qu'on dit pour l'avenir du yiddish, puisque ce lait yiddish ne coule, s'il coule encore, mais de moins en moins, dans des siècles restreints.
Bon, il faut pas rester là, ça aussi le point.
Il faut être lucide aussi.
C'est difficile pour la langue de passer d'une génération à une autre comme si de rien n'était. La transmission linguistique a été arrêtée par l'histoire. Ça, c'est pas une chose qu'on peut effacer d'un trait de plume. Mais il se trouve, alors là c'est quelque chose à mon avis qui est une dimension traumatique, sur un plan clinique, qui est psychopathologique, traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un choc émotionnel tellement fort que, il y a d'ailleurs toute une série de gens qui ne veulent plus parler dans cette langue maternelle, pas seulement parce qu'ils ont peur d'être reconnus comme cultes, des enfants cachés, j'en ai rencontré plein, qui ont peur de parler, qui n'y arrivent pas, qui balbutient. Robert Samacher, qui est un ami à moi, qui a écrit dans les différents colloques que j'ai organisés, il est encore caché, Fernand Niedermann, qui a fait une analyse avec mon propre analyste, on se connaît bien, qui était aussi un enfant caché, il a du mal, il dit, il n'y a qu'avec toi que je ne parle. Alors comment on fait pour que ça redémarre? D'abord, il ne faut pas faire comme si ce qui était mort, et ce qui était vivant, ou n'était pas mort, ou pas vivant, il faut savoir ce qui est mort et ce qui est vivant. Il faut faire une analyse clinique, littéralement, de ce qui est réellement mort et de ce qui est réellement vivant. Il faut aussi reconnaître que ce qui est mort est mort. Et que ce qui est vivant est vivant.
Là, vous parlez sur le plan sociologique.
Je parle sur le plan psychologique.
Personnel.
Personnel.
Pour chacun.
Oui, c'est-à-dire, on va voir chacun comme si c'était comme avant. Bon, alors, on ne va pas non plus se mettre dans une position de dire « tout est perdu, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est foutu, j'ai entendu ça 1000 fois, hein, je ne vais pas vous donner les noms, mais j'ai entendu, je rencontre quand même beaucoup de monde, donc j'ai entendu encore récemment, ou alors faire comme si ça continuait comme avant, et puis que rien n'avait eu lieu, et que tout était merveilleux. » Il faut que ça saute plusieurs générations. Voilà ce que je pense. C'est la réponse, une partie de la réponse à votre question. Car je crois que la première génération, c'est sa langue maternelle. La deuxième génération, comme c'est la nôtre d'ailleurs, ça reste encore la langue maternelle. Pour mes enfants, c'est déjà plus le cas. Pourquoi ? C'est pas tellement à cause de moi ou de ma femme. C'est parce que culturellement, il n'y a pas un environnement. Il faut vraiment, à part quelques personnes qui font un effort exceptionnel pour parler quotidiennement, pour apprendre à lire et à écrire et pour utiliser la langue dans des milieux séculaires, c'est quand même pas une donnée qui va de soi. Ça existe, hein, ça existe. Enfin, c'est pas évident. Ça ne veut pas dire que sur le plan de ce que les enfants ou les petits-enfants ou même les arrière-petits-enfants peuvent avoir dans le psychisme par rapport à tout ce qui entoure la langue et c'est-à-dire les gens, la musique, la nourriture, c'est-à-dire tout un environnement qui est plus ou moins édulcoré, perdu, etc., ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait plus rien. Pourquoi est-ce qu'il y a au niveau mondial actuellement, effectivement, des gens, juifs ou non-juifs d'ailleurs, qui vont prendre des cours ? C'est pas une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Il y en a à Montréal, à Melbourne, ce cher Alexander avec qui je travaille, il est prof de Yiddish dans une école, il est aussi directeur d'une troupe de théâtre. Mais à Montréal, Lorna Smith, que j'ai interviewé aussi pour les Yiddish FM, elle a une école. Et il y a une de ses élèves, on a publié ça dans les Yiddish FM, qui, une petite Jessica, qui dit, dans une très très jolie petite lettre, Yiddish ist nicht ein Sprach, c'est un Weg zum Leben. Le Yiddish n'est pas une langue, c'est un chemin de vie. Elle a, je ne sais pas, 10, 15 ans, 7 ans, 7 jeunes, 7 jeunes. Aaron Appelfeld. Je discute avec Aaron Appelfeld pour l'interviewer. Je lui demande, alors c'est quoi l'avenir du Yiddish ? Je n'ai pas dit, je dois faire une conférence. C'était avant. Alors il me regarde, il me dit, mais darf nicht kann die Vigus, que ce mot. On ne doit pas faire de prophétie.
Dire ça au peuple juif.
Ben oui. On ne doit pas faire de prophétie. Et je crois qu'il a raison. Il faut se méfier. D'abord, moi je ne suis pas prophète. Je ne suis pas viseuse de bonne aventure non plus. Alors il faut faire un état des lieux, c'est assez terrible, ça ne va pas. C'est pas nouveau, hein. Par rapport à la langue yiddish en tant que telle, en tant que constituée appartenant à une culture. Mais disons qu'il ne faut pas faire trop de prophétie, parce que il y a ici et là des choses qui se passent qui font qu'on ne sait pas comment tout ça peut tourner. En tout cas, il ne faut pas fétichiser les choses dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les fétichiser dans le sens où ça y est, c'est comme s'il n'y avait rien eu, ou dans le sens où tout est perdu. Il faut tout inventer maintenant, ou réinventer. Et donc il faut être lucide, parce que sinon on n'avance pas. D'abord, on n'a pas de langue. C'est pour tout le monde. Il faut la conquérir sans arrêt, il faut l'inventer. C'est pas Dieu qui a inventé les langues, c'est nous qui les inventons, avec notre inconscient. C'est pour ça que le colloque s'appelle, qui dit fait la psychanalyse, le transfert à une langue. Quelle est la relation affective de quelqu'un à une langue, quelle qu'elle soit. Quelquefois la langue qu'il a choisie, c'est pas du tout la langue qu'il est, et qu'il a, dans laquelle il a été élevé. Moi j'adore l'anglais. Peut-être ma langue d'adoption, finalement. J'aime beaucoup les mots. Un violet, c'est pas ça, la droite. Anti-sioniste, je ne suis pas anti-sioniste, enfin, je non plus, mais j'adore les mots, j'en fais depuis 11 ans. Parce que quand ma mère est morte, j'ai dit, pas seulement que j'apprenne à lire et écrire ma propre langue avec Yitzhak Liborski, pendant 2 ans, mais on a quand même su, et pas mal, hein, parce que franchement, c'est pas facile, même pour quelqu'un dont c'est la langue. Hein, parce que moi, ils m'ont pas appris à lire et à écrire. Pour eux, c'était pas, franchement, l'urgence. J'ai appris en même temps l'hébreu moderne, parce que, pas seulement à cause de la langue hébraïque, n'est-ce pas des hébraïques, mais parce qu'il y a là quelque chose qui me mettait dans un rapport différent à ma propre langue maternelle aussi, et dans un lien social vivant, avec une langue qui faisait lien social, puisqu'on peut la parler aussi dans le monde entier, avec certaines personnes. Donc, l'avenir du Yiddish, c'est l'avenir d'une langue qui a été de l'intérieur. Il y a eu des conflits extraordinairement graves à Tchernowitz, autour de Tchernowitz, avant Tchernowitz. Ce que Fishman, vous l'écouterez dans l'interview pour ceux qui comprennent le Yiddish, nous a raconté à New York comment ça s'était passé entre tous ces gens qui n'étaient pas des universitaires, qui ne savaient pas le temps qu'ils devaient parler, qui n'avaient même pas de costume pour aller à la réception, qui suivaient à l'hôtel. Enfin, c'était des gens qui venaient comme ça discuter de l'avenir du Yiddish, justement, et qui n'avaient pas un minimum de cadre. Donc ça a été un échec d'une certaine façon. Il y a des conflits extrêmement graves entre l'hébreu et le yiddish, évidemment, entre toute une série d'autres courants, enfin toute cette histoire, vous la connaissez. La question est la suivante. Je crois que pour ceux dont c'est la langue maternelle, ils ne peuvent pas faire comme si elle était morte. Si c'est vrai, c'est vrai. Et pas pour eux. Voilà. Ça, c'est ce que je fais moi. Dans mon coin, avec quelques autres maintenant. Bon, depuis quand même assez longtemps, puisque mon premier livre date de 82 sur Freud et Yiddish, où j'avais analysé des mots d'esprit en Yiddish et pas en allemand, pour montrer comment ça faisait événement et comment ça faisait même événement de la psychanalyse. Parce qu'au fond, on repérait là le transfert, c'est-à-dire la relation affective à un autre, qui passait à travers une langue et où on pouvait même poser la question du rapport affectif qu'on avait aux langues, c'est-à-dire au choix qu'on faisait d'une langue. Un des secrets, à mon avis, de la tradition juive, c'est de ne pas adhérer entièrement à une langue. D'être dans le multilinguisme. Ça a été très très bien dit dans le film. Moi, je crois que l'exemple de Wendy Kahn est très très fort entre le néerlandais, le yiddish et puis le français. Vous retrouvez la même chose dans toute une série d'autres endroits. J'ai été récemment à Amsterdam à interviewer Shlomo Berger, qui est prof là-bas de Yiddish. Que se passe-t-il? Les Juifs arrivent à Amsterdam en 1640 et comme il dit, ils n'en bougent plus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils infiltrent le néerlandais de yiddishisme et de brahmisme. Quand Shlomo Berger va au marché et qu'il parle yiddish, on comprend. Mais il y a des bouquins entiers écrits sur le yiddishisme et les hébraïsmes dans le néerlandais parlé à Amsterdam. À Helsinki, j'ai interviewé Simon Muir, qui a écrit un énorme livre passionnant, plein d'interviews sur le yiddish parlé à Helsinki. Au début, les juifs parlaient suédois. C'était d'ailleurs des juifs russes qui faisaient 25 ans d'armée et qui, quand ils avaient fait 25 ans d'armée, restaient en Suède et après partaient en Finlande. Donc ils parlaient suédois. Après, ils se sont mis aux Finlandais. Donc le yiddish est infiltré de quoi? De suédois et de finlandais. Donc, qu'explique Shlomo Berger? Et ça nous amène tout de suite à la question de l'avenir. Il y a une situation linguistique locale, à chaque fois, où vous avez des infiltrations, d'ailleurs c'est l'origine même du yiddish, n'est-ce pas? Des infiltrations des parlers locaux avec le rapport à la tradition juive dans le monde ashkénaz. C'est-à-dire que ce qui était commun à tous les lettrés de l'époque du XVIIe siècle, que Shlomo Berger analyse, à partir d'un texte d'ailleurs qui a été traduit au XVIIe siècle, au XIIe siècle, n'est-ce pas, pour un lectorat du XVIIe siècle, c'est-à-dire que tous les juifs ashkénazes qui parlaient yiddish, même si localement ils parlaient néerlandais, français, anglais, ou Dieu sait quoi, c'était la même langue, au sens où il y avait des variantes locales, mais une langue commune, ce qui a éclaté avec la Shoah. N'est-ce pas ? On a là maintenant tout à fait autre chose. Alors, l'avenir, il passe par Internet. Il y a eu un très bel éditorial de Boris Sandler, le directeur du Fort Wertz à New York, à la fin de l'année, pour souhaiter la fin de l'année, mais la bonne année à ses lecteurs, disant, incroyable ce qui se passe sur Internet. Il y a des tas de sites où on échange des mails en yiddish. Il y a des articles, c'est inimaginable. C'est comme si tout était passé dans le virtuel. Pas tout, beaucoup. Et ça, c'est une chose, à l'époque, je ne faisais pas de radio. J'écoutais très attentivement l'émission du Fort Wertz à New York, parce qu'elle est très bien, que j'aime beaucoup. Il y a celle de Alex Daphner en Australie, il y en a une autre à Boston, Meyer David s'en occupe. Je crois qu'il y en a une en Suède aussi, il y en a, nous à Paris on en a une à la maison du culture yiddish, il y a Gilles Rosier qui s'en occupe, Sion et si les Américains comprennent, ça c'est plutôt en français, sur le Yiddish. Mais ça passe par l'Internet. Internet permet des liens dans le monde entier entre des gens qui veulent s'intéresser à ça, qui ne sont pas des locuteurs de langue originairement yiddish, des juifs, des non-juifs, et ça remet en fonction complètement quelque chose qui n'est plus lié justement à un territoire. La radio australienne en est un excellent exemple. On en a rien. Il y a même quelqu'un de très connu qui m'a dit « qu'est-ce que j'en ai à faire de la radio australienne ?» De faire un interprète de la radio australienne. En réalité, ça n'est pas parlé yiddish. C'est une personnalité, je ne sais pas qui c'est. C'est absurde. C'est-à-dire, c'est pas l'Australie qui est en jeu.
Ça l'écoute dans le monde entier.
Ben, bien sûr. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous ne l'écoutez pas. De toute façon, c'est pas Rennes. C'est pas Rennes.
Zéro franc production.
Mais pas trop, zéro franc production. Non, ce n'est pas où il y a pas trop de mal caché. Pour se me guetter, il n'y a pas trop de mal website.
Il y a pas de ça. J'ai une question. Quand vous parlez de. Quand vous parlez de Internet, est-ce que c'est une réactualisation de Yiddish Land comme elle a été décrite par Justin Camille, une nouvelle version, cette espèce de délocalisation, mais de partage intellectuel, mental, affectif?
Écoutez, moi ça fait un an que je vis cette expérience-là dans la réalité. Vous en êtes un exemple aussi, il y a des gens qui m'ont invité en Suède comme ça.
Oui,
c'est une mission. C'est tout. C'est pas parce que j'ai publié 8 livres, ce qui est un fait. Alors c'est très important qu'il y ait quelque chose derrière. C'est-à-dire, bon, j'ai une position universitaire aussi, puis j'ai publié des livres. Donc ces livres, bon, bah, y en a certains qui sont quand même lus par des autres des lecteurs. Et ils sont intéressants. Bon, il faudrait que les achetiez quand même. D'autant plus que je peux les signer. Donc, mais la radio, c'est gratuit. On va rattraper.
Je ne voudrais pas vous couper dans votre développement. J'avais quand même une question. Sur le futur du Yiddish, ce rapport à la langue environnementale, cette distance, est-ce que certains disent qu'une sorte de nouveau Yiddish serait en train de naître aux États-Unis, qui serait à l'anglais ce que le Yiddish est à l'allemand, une sorte de cousinage, Yiddish, on dirait. Qu'en savez-vous, qu'en dites-vous?
C'est un fait depuis longtemps. On trouve ça chez Henry Roth, Call and Sleep, qui se passe à New York dans le East Side, ou East Side, où les juifs, nos ancêtres sont arrivés, enfin ceux qui ne sont pas partis là-bas. Moi j'ai été visiter ça. Bon, Henry Roth, il a un grand sans arrêt. Et justement, ça c'est très très intéressant. Ce qui se passe pour un enfant tout petit dont la langue maternelle est blanche, le yiddish, et qui entend de l'anglais. Il parle ni yiddish ni anglais. Mélange les deux. Il infiltre le yiddish d'anglais, il infiltre l'anglais yiddish, et ça donne gros red sleep, avec des choses qui ressemblent un peu à Joyce, sauf que c'est tout à fait différent. Bon, il n'y a pas que lui. Vous prenez un livre récent de Policeman, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Ligue des policiers, c'est de Yiddish de Sharon, qui lui raconte l'histoire de juifs ashkénazes en Yiddish qui sont partis s'établir en Alaska. Il invente une langue qui fait un mélange du parler local et du Yiddish.
Ah, c'est les Inuit Yiddish.
Oui, voilà, c'est le Inuit Yiddish. Bon, ça c'est décrit par les linguistes, c'est des phénomènes de contact, de fusion. Ça, c'est très spécifique. Mais le point qui est cliniquement important, c'est de délier la langue du territoire. C'est de la recentrer sur le corps. Et de la recentrer sur l'entre-corps. C'est-à-dire que la langue, elle est dans le transfert. C'est pour ça que j'ai intitulé le deuxième colloque international mondial et intergalactique. Le transfert à une langue. C'est la langue, elle n'est pas dans les dictionnaires. Elle n'est pas dans les fours crématoires. Elle est entre moi et l'autre. Si je considère que l'autre est déjà mort, que sa langue est morte, je ne pourrais pas lui parler. Combien de gens j'ai interviewés, des gens connus, des gens non connus, qui ne peuvent pas parler, qui croient, qui font croire, alors qu'ils ont une certaine image de yiddishisant, qu'ils sont yiddishisants et que c'est faux, parce que devant le micro, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et je suis convaincu qu'Alex Stafner a passé un certain nombre d'interviews en lui disant « C'est un dialecte français, Alex !» Il m'a dit « Oui, on va passer du dialecte yiddisho français. » Parce qu'il y a du dialecte yiddisho, je suis sûr, anversois, ou yiddisho néerlandais, ou yiddisho ceci ou cela, américain aussi. Donc ces phénomènes de fusion existent depuis le début. Mais il faut bien voir, Jeffrey Chandler, le linguiste Jeffrey Chandler, il parle d'un yiddish post-vernaculaire. C'est-à-dire que là, actuellement, nous sommes dans un, comme on parle de post-moderne, il y aurait une espèce d'état de la langue qui serait au-delà de la langue parlée quotidiennement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des inventions linguistiques qui se passent, effectivement. Il y a un réinvestissement par la troisième ou la quatrième ou la cinquième génération qui est moins touchée traumatiquement par la Shoah, de ce que pourrait être une relation à des ancêtres. C'est-à-dire qu'ils cherchent à parler à leurs ancêtres. D'ailleurs, c'est ce qui se dit hein, dans certains cas. J'ai entendu des élèves dire, moi, je cherche à parler avec mes grands-parents. Moi, mes grands-parents, je ne les ai jamais vus. J'ai des photos. Il y a mon premier colloque, j'ai mis des photos que j'avais de mes quatre grands-parents. Hein. Bon, dont celui dont je porte le nom, Meyer, le père de mon père. Tous ces gens-là, ils sont partis ensemble. N'est-ce pas ? Donc, je ne sais pas ce que c'est que mes grands-parents. J'ai des oncles. Voilà. Et puis, des tas d'amis de mes parents qui servaient un peu de mèche-pourre. Un peu comme au café de l'espoir, où c'est plus facile de se parler, parce que de parler à son fils de la déportation, c'est peut-être plus difficile que d'en parler à un étranger, dont on sait qu'il est analyste vraiment, et qui vient de temps en temps, et à qui on peut ne pas en parler non plus. N'est-ce pas? Donc on se parle peut-être plus facilement. Alors, je crois qu'il faut, il faut prendre son temps. Nous n'habitons pas l'espace seulement. Notre corps, effectivement, a besoin d'avoir une langue, mais cette langue, il ne faut pas que nous nous y fixions. Et surtout, nous habitons le temps. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'histoire de Hitler avec son astrologue. Parce que que dit l'astrologue, qui a l'air d'être juif dans l'histoire? Je veux dire, il y a un jour où toi tu vas mourir. Et nous, on se souviendra de toi. Nous, on racontera une histoire sur toi. Il y en a choix. Voilà.
Bien, Alexandre, oui, exactement. Merci beaucoup. Alors, si vous avez, et j'espère, je suis certain que vous en avez, des questions ou des réflexions, eh bien, le micro est à vous.
Moi, j'en ai une. Très, parce que quand même, il y a le micro qui est là. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Sur cette difficulté de continuation du yiddish, j'ai pensé un segment au début de la soirée. Vous parlez à ses ancêtres, etc. Il y a une difficulté qui tient au fait que la plupart des cours sont donnés d'une façon classiquement institutionnelle, les classes, etc. Moi, le prof que vous avez vu dans le... C'est une femme merveilleuse, elle est d'Argentine, c'est la langue maternelle, et elle est pleine d'enthousiasme, elle a beaucoup d'humour, elle a du peps, elle est sympa. Eh bien, voilà, on était parti dans des textes à traduire. Le type qui est au marché de je ne sais plus quel shtetl avait des problèmes avec sa redingote pour la corde. Vous savez, les colporteurs, il y a la corde pour tirer le pain et il y a le pan qu'il faut mettre dans le pantalon. Mais j'en avais rien à foutre de cette corde et de ce pantalon. Moi, je veux conduire une voiture en yiddish. C'est pour ça que quand... J'ai eu le bonheur, quand on a parlé de Webseiten, de Mobilke, de, comment on dit, un mail,
Blitzbrief,
ça nous touche, ça nous concerne. Et en fait, apprendre des listes de mots de vocabulaire sur des textes anciens, c'est très bien, je n'ai rien contre, entendons-nous, en soi. Parce que ça fait partie de la culture. Mais c'est surtout pour les gens qui sont doués pour les langues et qui aiment ça. Et qui vont étudier. Parce que les profs qui donnent cours de yiddish, c'est déjà des linguistes. Eux, ils baignent dans leur élément. Mais les gens comme vous et moi qui ont un rapport affectif à la langue sans être spécialement doués pour les langues, moi je suis plutôt scientifique, ben il faut me prendre d'une autre façon. Hein? Et on apprend des choses et puis on les oublie. Parce que un mot dans un bouquin, c'est jamais qu'un mot dans un bouquin, ils se ressemblent tous. Tandis que, lorsqu'on a quitté l'université, un soir à 4 heures, le soleil se couchait, le cours était terminé, on allait aller à un concert le soir, je marchais avec une des étudiantes qu'on a interviewée, et je l'amène à l'arrêt de bus, et puis on se dit à demain, elle me dit, yo, bis morgen. Eh, je ne l'ai pas oublié. Là, je suis là, maintenant, je suis dans l'arrêt de bus. Bis morgen, je sais ce que ça veut dire à demain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les cours de yiddish, il faudra un peu plus d'invention et être plus dans le mode contemporain. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'espère bien que quelqu'un parmi vous osera se lever et nous poser une question.
Bon, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que dans la plupart des cursus de philologie germanique, hein, partout en Europe, ailleurs aussi peut-être, il n'y a pas d'option yiddish. On n'étudie pas le yiddish. Moi, ça m'a toujours fort étonné parce que je trouve que c'est une langue germanique, au même titre que les autres langues germaniques. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire dans ce sens-là que dans les académies, dans les universités, on commence à se dire, donc on fait un cursus de philologie germanique, hein, donc comme ici, on a une base, on peut prendre des bases, on choisit une des langues germaniques, mais on étudie tout de même dans aussi l'ensemble des langues germaniques, et puis on se spécialise dans une des langues germaniques, que le yiddish fasse de plein droit partie du cursus. Est-ce que c'est une question qui a déjà été étudiée ou...
Je n'ai pas la réponse.
Non, moi ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait des conflits à Paris, en tout cas, pour faire qu'il y ait des cours de yiddish dans un département allemand. Enfin, que pour titulariser, par exemple, quelqu'un qui était yiddishisant dans un département allemand, ça n'était pas dans une recherche. Hein. Les gens étaient au courant que c'était problématique. Bon, ça, des questions institutionnelles qui sont celles qui sont... le champ de discipline, vous voyez, ce que vous dites est juste par ailleurs. Ce que vient de dire Alexandre est vrai aussi, c'est-à-dire que comment faire rentrer la langue, mais ça je crois qu'encore une fois, une langue ça rentre par la relation à l'autre. Moi j'ai appris l'anglais, pas au lycée, j'ai appris quand je suis allé à Londres la première fois. N'est-ce pas ? Ça, c'est dans une relation aux gens, dans une certaine immersion, et là il y a un véritable problème en ce qui concerne le yiddish, où est-ce qu'on va s'immerger, c'est ce que dit Myriam Shmulevitch-Hoffman, qui écrit des petites chroniques dans le Fort Vert, puis moi j'emmène mes étudiants à Borough Park, à New York, à Brooklyn, ou à Williamsburg, pour qu'ils voient des juifs qui parlent yiddish, un peu comme tout à l'heure on se disait, mais on ne va pas aller jouer les ethnologues à Anvers, parce que j'avais bien envie d'y aller, mais il faut que je retourne à Paris demain, donc j'ai beaucoup de fois, ça je tiens à aller faire un tour quand même. Donc, si vous voulez, il y a l'aspect universitaire, mais l'aspect universitaire existe. Il y a des endroits où on enseigne le yiddish à l'université dans le monde entier. Ça, c'est un fait. Maintenant, ça ne marche pas tellement, apparemment. C'est difficile. C'est pas seulement l'expérience d'Alexandre. Ça, je voulais dire. Et il y a des questions de territoire et de légitimité, comme ça se passe dans toutes les disciplines.
Oui,
pardon.
Non, mais...
Question que je voudrais poser au psychanalyste. Que reste-t-il du yiddish, quand je pose la question, c'est que j'imagine qu'il reste quelque chose, à la troisième ou à la quatrième génération qui ne parle plus le yiddish, mais qui a eu un grand-père ou une grand-mère, ou un arrière-grand-père qui parle le yiddish. Qu'est-ce qui reste du yiddish? Est-ce que c'est le néant, ou est-ce que le yiddish reste, transpire, par d'autres moyens que la langue?
Ça dépend des histoires de chacun. Hein. Moi, j'ai au cours d'un des colloques que j'ai organisé, bon, j'ai trois enfants, un de mes enfants, c'est mon fils, Emmanuel, qui était là, et il y a eu une puricultrice avec qui je travaille à la maison de l'enfant, qui m'a parlé à la retraite, qui m'a dit, vous savez, quand vous avez parlé en yiddish, les yeux de votre fils brillaient. Et j'ai essayé, quand j'étais petit, plus jeune, je veux dire, petit... c'est un bon lapsus, c'est de lui apprendre. Ma soeur me disait la même chose ce matin, on essaye une journée.
Non,
hein?
C'est pas ça.
Ben c'est difficile, c'est pour pas dire quasiment, on ne peut pas dire impossible, mais c'est extrêmement difficile. Donc, je crois que c'est pas une disparition complète. Ça dépend des familles. Maintenant, il y a un point peut-être qu'il faut dire clairement. Non, mais il y a un point qu'il faut dire clairement. On ne mesure pas, parce que c'est très très difficile de le dire, mais il faut arriver à se le représenter un petit peu, que non seulement
on a voulu nous effacer, mais on a voulu effacer l'effacement de la trace du crime. Vous pensez que ce genre d'acte, ça laisse des traces terribles sur plusieurs générations. Ça passe aussi par l'effacement de la langue. Il faut dire aussi haut et fort que beaucoup de juifs ont voulu effacer la langue yiddish, et c'est vrai des autres judéo-langues, en eux, avant la Shoah. Ça s'est aggravé, il y a eu des conflits quand même, il faut le dire aussi clairement, au moment du stalinisme. Il y a eu des conflits avec la fondation de l'État d'Israël, et comme disait Henri Mintzeles, les trois, ça fait beaucoup. La Shoah, le stalinisme, parce que quand même l'intelligence yiddishisante qui a été détruite, c'est quand même catastrophique, pour ceux qui avaient un peu d'idéal. Et puis alors le début de l'État d'Israël, c'est pas drôle non plus pour les yiddish, on jetait des tonnes, enfin on mettait en prison les auteurs du théâtre yiddish, moi la nuit, Donc, il n'y a pas que la Shoah, mais avant, il y avait déjà ça. Il y a des tas de juifs qui voulaient parler polonais, des tas de juifs qui voulaient s'assimiler même en Pologne, on en connaît, il y a, comme partout. En Allemagne, vous savez bien ce qui s'est passé, etc. Donc là, il faut voir d'où on vient. Alors, qui a encore un tout petit peu de tincelle, ça peut donner dans une autre génération, à un autre niveau, ou même dans cette génération-là, un goût, un désir, un réchec pour la relation à des gens. Mais il faut voir que les générations sont dans une position très très différente. Ceux qui ont vécu la guerre, il y a ceux qui ont été cachés, ceux qui ont été déportés, ceux qui ont y échappé parce qu'ils sont partis en Argentine, en Amérique bien avant, ou qui sont déjà installés dans des pays en dehors de l'Europe où il n'y a pas eu la Shoah. Ils ont un tout autre rapport à ça, complètement imaginaire en général. Les Argentins, les Américains. Mais absolument. Ça ne veut rien dire, c'est la Shoah, c'est du vent dans leur corps, dans leur histoire. C'est aux autres que c'est arrivé, et ils ont un sentiment de culpabilité. Donc, si vous voulez, il faut qu'on arrive à sortir, il faut faire un pas en avant. Et ça, c'est une question du temps, c'est une question d'un travail. Il y a aussi, je crois qu'il y a une chose aussi qu'il faut rajouter sur l'avenir du yiddish. J'ai montré dans mes travaux que sans le rapport de l'expérience du langage yiddish, il n'y aurait probablement pas eu d'invention de la psychanalyse pour Freud. C'est-à-dire que Freud n'est pas simplement Sigmund Freud, c'est un processus historique, social et langagier, j'ai montré ça dans mon premier livre, et au cours des 30 ans de travaux que j'ai fait, qui produit un écart à la langue. L'inconscient, c'est un écart à la langue. Et être juif, c'est aussi être dans cet écart. Quelqu'un me disait, ça fait Bernard Lazare dans une conférence, une supposition impossible d'être juif parce qu'on s'identifie à la fonction même du langage. Or, nous ne sommes pas le langage.
Merci. Oui, non, je ne clôture pas.
J'ai
une autre
question.
Ah, oui. Alors, non, on va écouter, monsieur, on va rassembler les réflexions et les questions. Monsieur, je vous en prie.
Ils ont fait une assimilation de la Hauptstadt in Europa. Jiddisch ist die sogenannte offizielle Sprache von Europa.
Wir haben Minderstärke.
En français, cela veut dire que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Et le Jiddisch est reconnu comme langue officielle. On peut s'adresser en Jiddisch et recevoir une réponse en Jiddisch.
C'est formidable.
Donc, l'espoir ne va pas disparaître.
Votre grand-mère, à qui on parle en yiddish, et qui ne répondra pas en français. Une grand-mère, un grand-père, qui parle le yiddish, et qui ne voudra pas répondre à ses petits-enfants en français, et les petits-enfants apprendront le yiddish.
Vous pratiquez ça, madame?
Oui.
Très bien.
Et justement, pour réagir à ça, je fais partie sans doute de la troisième génération, comme tu disais, et j'ai un père qui parlait tout à fait couramment le yiddish, qui ne parlait que le yiddish avec ma grand-mère, et ma grand-mère a toujours refusé de me parler en yiddish. Et quand je lui demandais de m'apprendre le yiddish, de s'adresser à moi en yiddish, c'est quelque chose qu'elle refusait. Donc, c'était un peu la langue interdite.
Mais pourquoi? Pourquoi elle faisait ça à votre avis? C'est un guetéchard, hein? Yeah.
je pense qu'il y a probablement quelque chose de l'ordre de ce qui reste de la Shoah. Mais pourtant, elle parle yiddish avec mon père. Donc en même temps, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. N'empêche qu'il reste que pour moi, ça a été pendant longtemps, elle est morte il y a quelques mois maintenant, la langue de l'interdit. Et pourtant, il reste quand même quelque chose de ça. Tu poses la question, mais qu'est-ce qui reste à la troisième et à la quatrième génération? Voilà, à la quatrième génération, je ne peux pas encore répondre, pas pour moi en tout cas. Mais,
bientôt peut-être.
Mais je dis...
Mais il faut s'arrêter à cette expérience que vous avez eue.
Si on l'a laissé terminer.
Oui.
Elle n'a pas fini.
Non, non, mais je crois que si elle n'a pas terminé, qu'elle termine. Non, non, elle est, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la peur dans ce que votre grand-mère vous a transmis, que vous soyez dans la position qui est la sienne pendant la guerre. C'est-à-dire, parler yiddish, ça, j'ai rencontré beaucoup de gens, enfants cachés en particulier. Moi, pour moi, ce n'est pas ma position. Je n'ai pas vécu la guerre. Ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas la même position. Mais beaucoup de gens qui l'ont vécu, sauf certains, évidemment, n'ont pas tellement peur de parler yiddish. Mes parents n'avaient pas peur du tout de parler yiddish. J'ai peur d'autre chose, pas de ça. Je n'en comprends pas. Bon. Mais votre grand-mère, elle avait peur que vous vous retrouviez dans cette position-là, d'être finalement... dans un danger. Mais en même temps, elle vous a dit, il y a de la vie, c'est-à-dire interroge-toi, demande-toi, n'est-ce pas, demande-toi pourquoi je le fais. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce qu'il faut que tu sois absolument quelqu'un à qui je parle cette langue, comme si c'était un proche de ma génération, ou est-ce qu'il ne faut pas que toi tu réinventes tout, parce que votre génération, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Est-ce que vous vous rendez compte, et ça c'est un vrai problème dans la transmission de génération, on n'apprendra pas une langue, l'histoire c'est un vrai problème, tant qu'on ne se représentera pas ce qui se passe d'une génération à une autre. En général, qu'est-ce qui se passe? La génération des gens qui ont vécu la guerre de l'intérieur ne se représente pas l'effet qu'ils ont produit sur leurs enfants. Alors ça, moi je le sais, je ne vais pas vous dire le nombre d'analyses que j'ai fait, mais ça ira comme ça.
Ça va gagner.
C'est absolument dans l'écrasante majorité des cas, ils ne se représentent pas ce qui s'est produit pour leurs enfants, qui ont été mis dans une position, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement difficile, ce qui se passe aussi dans ce que vous racontez là, mais à une autre génération. Bon. Cette génération-là, par rapport à ses propres enfants, et moi je m'en rends compte par rapport aux miens, il y a des choses, il y a de la casse. Il y a beaucoup, c'est propre. Il y a des choses qui sont cassées. Mais en même temps, il y a du lien, c'est-à-dire qu'il y a de la vie. Or, il faut bien se dire qu'il ne faut pas fétichiser une langue. Ça, parce que ça, c'est pas une bonne idée. Il faut aimer la vie. Évidemment, quand on demande ce qui est le plus fort, Marie Calter, dans l'interview que vous écouterez, dit, mais c'est la mort. Seulement pour nous, la vie est plus importante. Donc, il ne faut pas fétichiser une langue. Elle peut nous mettre en danger. Pendant la guerre, si on parle yiddish dans la rue à Paris, on risque d'être attrapé. Seulement une autre génération doit pouvoir se la réapproprier à partir de cette question énigmatique que vous laisse votre grand-mère. C'est une très jolie histoire, je trouve, qui est effectivement assez fréquente à entendre, mais elle vous a laissé ça en question pour vous. Il faut que vous réinventiez tout, il faut que vous retrouviez quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'elle avait, elle, il y a de la perte. Il y a aussi là un point important, il faut le dire, c'est cliniquement fondamental. Il y a des choses perdues, mais il faut tout réinventer. Et on peut vivre sans le yiddish aussi, en étant juif ou non-juif d'ailleurs, parce que beaucoup de juifs ne veulent pas être juifs. Eh bien, grand bien leur fasse.
Avant de donner la parole, je voudrais commenter sur ce que tu dis, parce que j'ai vécu, et on a tous plus ou moins vécu ce même genre. Histoire, moi j'en ai une autre interprétation, parce que mes parents m'ont parlé en yiddish, ils m'ont parlé en yiddish parce que c'était la langue qu'ils parlaient le mieux, donc autant en parler. C'était leur langue et c'était donc ma langue. Et c'est vrai que à mes enfants, ils n'ont pas parlé yiddish. Ils m'ont apporté, mais je crois que c'est une autre interprétation. Moi, pendant des années, puisque ma langue maternelle était très longtemps, ma langue maternelle, le français est devenu une langue culturelle, comme l'hébreu, l'anglais et autre chose, et je me rappelle très tôt, j'avais ce plaisir de parler yiddish, que je n'ai d'ailleurs retrouvé dans aucune autre langue, et peut-être effectivement l'anglais, mais pour d'autres raisons plutôt professionnelles, quand moi je m'adressais à des juifs qui étaient plus vieux que moi, À l'époque, quand j'étais jeune, évidemment, c'était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui, le vieux c'est moi maintenant, ou presque. Eh bien, je leur parlais en yiddish, parce que ça me faisait plaisir, et parce que je disais aussi ça peut-être en faire plaisir à eux aussi. Eh bien, ils me répondaient en français. Et vous qui souriez, vous êtes sans doute de ceux-là, parce que vous avez quelques années de plus que moi, et je me suis longtemps posé la question pourquoi. Je tente ce soir une explication. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, et peut-être plus d'entre vous, la génération du moins que moi, le yiddish était la langue de là-bas, d'ailleurs. C'est la langue de l'immigré. Et le français était la langue d'ici. Cette culture, cette civilisation à laquelle on voulait s'intégrer, pas s'assimiler. Et donc parler le yiddish, c'est parler une langue faible, minoritaire, celle de là-bas, celle de la souffrance, celle du passé. Et quand on parle le yiddish à ses petits-enfants, on leur montre qu'on est de leur monde, on est d'ici et de maintenant. Quand on parle, c'est pas bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que dans notre esprit, certainement de ceux qui sont plus âgés que moi, il n'y a pas tellement longtemps, et je me demande si on est déjà arrivé à ce stade, on se dit, mais le yiddish est une langue aussi belle, aussi forte, aussi riche, aussi noble que toutes les autres, et au moins autant que la langue à laquelle on essaye de s'intégrer. On a toujours ce sentiment qu'on est des immigrés, on est des éternels immigrés, et que le yiddish fait partie de ce chemin d'immigration. Et c'est vrai qu'Israël n'a pas aidé à ce genre de situation, parce que moi j'ai vécu des situations en Israël, j'allais voir ma famille en Israël, j'ai parlé avec eux le yiddish parce que je ne pouvais rien parler d'autre, mais dès qu'ils trouvaient un autre, ils leur parlaient en hébreu, parce que ça aussi, c'était la langue de la modernité, et pas cette vieille langue. Et donc le message, je crois que la bonne chose aujourd'hui, c'est terminé. Certainement, tout ce que moi je vois en Israël, auprès de la génération, ma génération, donc enfant de yiddishistes, qui se sont réappropriés, qui parlent aujourd'hui fièrement le yiddish. Aujourd'hui, je sais qu'en Israël, il y a des chers de yiddish dans les lycées, il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs. Et il y a des gens qui s'affirment maintenant en disant, oui, je parle yiddish, c'est une belle langue, c'est une langue noble, aussi belle que celle de la culture environnante. Je suis fier yiddish. Je crois que c'est ça le vrai bonbon.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire, en ajoutant juste un petit point. C'est qu'on parle beaucoup du passé, de douleurs, de morts qui ont disparu, et c'est de réfléchir aux blocages mentaux que nous pouvons vivre par rapport au yiddish, et c'est important, il faut le faire. Il y a un point quand même que je tiens à souligner, c'est que donc ça fait ma 7e tentative d'apprendre le yiddish. Mais chaque fois, lorsqu'on est en cours, en classe, on se marre. Mais vraiment, on se marre et c'est inexplicable. J'ai suivi des cours de plein de choses. Je ne me suis jamais autant marré que dans les cours de yiddish. C'est mystérieux. Il y a quelque chose de vivant, de lebedique qui passe.
Moi, je voudrais seulement dire, est-ce que vous entendez là?
Oui.
Je voudrais seulement dire quelque chose de très positif. Reden Yiddish in Brüssel, statt in Schleuch in Paris, in Amerika, in Australien, ici à Bruxelles, on parle zweimal im Monat Yiddish. Erst wird man umgehoben mit einer kleinen Gruppe, und bis jetzt mit einer größeren Gruppe, und dann haben wir gemacht zwei Gruppen. Und jetzt weiß man nicht mehr, wie man wird sitzen, die alle Menschen machen, mit drei Gruppen gemacht. Der Unterschied ist, dass man lernt nicht schreiben. Und lesen, und wenn man das einfach genießen zu reden, wenn man das einfach genießen zu reden, als man lacht, dann kann man sehr was sagen. Ein Satz, der du machst, das ist ein Hoku, in der Rhythmie. Und dann die Akichale, die Kabe, die Kabe, aber es geht schneller durch die Zeit. Und das ist positiv, sehr positiv, und schon wieder.
Ja, aber das ist ein Mensch, was wird schon hier nicht?
Et wie viel sind gekommen und haben gesagt, oh non, moi je parle pas yiddish, je me rappelle de la maison, j'ose pas parler. Et jetzt willen sie alle etwas retten in yiddish. Ein bisschen retten,
C'est la relégitimation. Relégitimisation. Oui, d'autres réflexions, monsieur Martin.
C'est très bien cette
de cette génération maintenant qui reprend encore une fois le yiddish. Mais moi je me rappelle, et je crois que ça serait une très bonne initiative. De mon temps, je parle début 30, de 1930, il y avait des écoles, des écoles de yiddish, Lehrerklasse.
Et qui se rappelle? C'est pas les années 30, ça.
Voilà, et des autres. Vous comprenez, c'est très bien, cette génération, je m'excuse des vieilles générations dont moi-même je fais partie. Mais peut-être faudrait faire prendre l'initiative pour des jeunes qui commencent un peu à parler les yiddish, qu'on leur apprend ce que c'était les yiddish, la langue de leur père et mère. De l'ancien pays, si vous voulez, Ashkenaz, comme la Pologne, le Roumanie, Hongrie, etc.
On n'est pas dans le vide non plus, hein. Par exemple, à Metavif, on raconte l'histoire du Yiddish, on est fait chanter en Yiddish, ici, au CCJ, lors des cours aux adolescents, les années de préparation à la Bar Mitzvah, on parle Yiddish aussi. Mais c'est un message fort, évidemment, qu'on peut encore amplifier. D'autres questions, réflexions?
Il y a une radio judaïque. Il fallait demander, et on a reçu comme une au monde, une chanson à 1h30, même pas tous les jours. Finalement, au Yiddish,
Myriam Fuchs.
Il y a une émission à 10h. Le mercredi matin.
Le mercredi matin.
Il y a eu un théâtre yiddish aussi, malheureusement, nous n'avons plus de metteur en scène. Et dans cette troupe, il y avait des non-juifs.
Le jeudi à 10h.
Des non-juifs qui apprenaient à écrire les lettres latines pour jouer en...
D'autres réflexions? Ami, est-ce que tu veux raconter une blague? Ami, Fatsai Lavetz. Ami, Fatsai Lavetz.
La Bayane. La Bayane.
Parler du passé, malgré tout, je m'interroge quand même, et mes enfants m'interrogent aussi, de savoir l'origine de la langue yiddish. Vous avez dit que c'était l'Allemagne, mais c'est quand même, bon, depuis, ok, 1000, et avant les 1000 ans, avant l'an 1000, comment ça pourrait, d'où ça venait?
Il était une fois, ce divin amour, le prince, qui a une minute pour.
Oui, une minute, en une minute, je vais répondre. Oui, très court. Évidemment, c'est une excellente question, c'est très important. On l'a évoqué, c'est le contact avec le milieu environnement, le passage de la langue. Bon, mais c'est pas vraiment le sujet de la soirée, mais c'est important. Si vous voulez vraiment le savoir, il y a pas mal de bouquins qui l'expliquent. Il y a des cours, il y a la suite Martin Buber. À l'université. On ne peut pas rentrer maintenant ce soir. Mais si vous voulez que M. Cohn dise un mot là-dessus.
Non, bon.
Ok. Bon. C'est clair. Non, simplement.
Un mot.
Question suivante. Là-bas, c'est une question.
La réflexion, l'émigration juive s'est faite après la destruction du temple, eh bien, échappe quand il y a eu un déménagement quand ils partaient de l'ouest vers l'est. Et c'est comme ça la France juive se construite.
Bien, s'il n'y a plus de questions ou de réflexions...
Moi, j'aurais encore une info. S'il n'y a plus de questions, une info, c'est qu'il y a encore un autre cours ici, dans cette institution. Il y a des cours qui sont donnés par Alain Miali, qui n'est pas un prof spécialement rigolo, mais il est... Mais on s'amuse quand même à son tour. Mais il est très, très... il connaît très bien les choses. Et puis, il y a de nouveau des cours à Anvers, comme vous avez vu dans le film, ainsi que à l'ULB, à l'Institut du judaïsme, donné par Sonia Pinkusovic, Le midi, il ne faut évidemment pas avoir du boulot, mais ça vaut la peine. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller voir. Voilà. Je tiens à vous conseiller la musique.
Alexandre Weinberg de Max Cohen, merci beaucoup. Et je vais vous demander personnellement quelque chose quand je vous adresse la parole en yiddish. Parlez-moi en yiddish. Et si je ne vous parle pas, parlez-moi en yiddish. Merci, bonne soirée, à Guitena. À Brest.